Salut à tous, bienvenue sur lebigessart.com. Vous écoutez le podcast numéro 94. Vous êtes maintenant en déconfinement, mais ça n'empêche pas de continuer à faire des podcasts un peu différents en direct, enfin presque en direct, de Las Vegas. Aujourd'hui, c'est une grande première parce que j'ai une femme comme invitée. Ça ne m'était jamais arrivé, alors ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est l'occasion qui fait le larron. Julie, bienvenue.
Merci.
Alors, Julie, d'abord, tu fais quoi, Julie? Alors, j'allais dire dealeuse de poker, mais je ne sais pas si c'est le bon mot.
En français, on dira plutôt croupier de poker.
Croupier, ok. Donc, pas croupière, même pas croupière.
On dit croupière, on use le mot croupière, mais normalement, ça sera croupier de poker. Ça reste au masculin.
D'accord.
Mais les gens trouvent ça plus sympa de dire croupière, peut-être.
Donc, ça fait très cliché de faire un podcast avec quelqu'un qui vit à Vegas et qui distribue des cartes. Mais bon, c'est la vérité. Hein. Il y a des gens qui le font. Toi, tu le fais.
Moi, je le fais, mais on est beaucoup, en fait, à le faire ici.
D'accord. On va venir au début. Comment on devient croupier de poker?
Eh bien, il y a une école. D'accord. Il y a des écoles à Paris, okay, ou en France. Donc, il y a des écoles pour entrer dans les casinos, en général. Et il y a une école à Paris, rue d'Aboukir, ou qui était, peut-être qu'elle n'y est plus puisqu'il n'y a plus trop de poker en France, qui formait essentiellement et uniquement plutôt au poker.
D'accord.
Donc pas que le Texas Hold'em qui est connu de tous, mais les 12 ou 13 ou 20 variantes de poker.
D'accord. Donc les Texas Hold'em dont tu parles, on parlera plus en détail plus tard. Donc c'est vraiment le jeu le plus populaire en ce qui concerne le poker.
Ouais.
Tout ce qui se joue en ligne et tout, c'est quoi? C'est 90% ces jeux-là?
Oui, peut-être.
D'accord. Donc tu disais que l'école était à Paris, donc c'est là d'où tu viens? Enfin, dis-nous.
Non, pas du tout.
Alors vas-y, dis-nous, je veux tout savoir.
Pas l'accent trahi. Je suis née à Nîmes, en fait. Je suis née dans le sud, dans une ville moyenne, on va dire. Et j'ai pas du tout une formation ni de joueuse ni de croupier au départ. Je suis arrivée là-dedans sur le tard, par des chemins de la vie, on va dire. Et j'ai rencontré une fille qui avait été une des premières joueuses croupier de poker à Paris, puisqu'il n'y a pas de casino à Paris. C'était, parce qu'on parle au passé dans ces moments-là, ouais, c'était des cercles de jeu. Des cercles de jeu qui étaient des associations, loi 1907, enfin, à but non lucratif. Et donc, qui m'a dit, je te verrai bien dans les jeux, etc. Donc, j'ai fait cette école en arrivant, je vivais en Guadeloupe, j'ai fait cette école en arrivant à Paris, qui dure un mois. Et j'ai été embauchée par le mythique Club Aviation Club de France.
D'accord. Donc, tu n'avais aucune disposition pour le jeu?
Non, j'aimais jouer à tous les jeux, que ce soit le Monopoly, le jeu de loi ou la pièce la plus près du mur. Mais non, pas du tout. Je savais grosso modo ce qu'était une paire ou un jeu de cartes, puisque je jouais aux cartes, mais pas au poker, qui est un jeu d'argent et qui, il faut des moyens, des finances, et je ne m'y étais pas lancée. Mais j'ai fait cette école qui m'a passionnée. Et je fais que chaque année, je dis sûrement, j'arrête le poker, mais je continue parce que j'adore.
D'accord. Dans cette école, on apprend quoi?
Alors, dans cette école, on apprend déjà les règles.
Ok. Qui paraît le minimum?
Qui paraît le minimum, ouais. La neutralité, il n'y a pas de préférence, même si c'est ta sœur qui joue à la table. C'est pas... la triche qu'il peut y avoir, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup à compter.
Ouais.
Alors, on n'a pas besoin d'un diplôme. On peut avoir bac-12 et être croupier de poker.
D'accord.
Mais il y a une grosse rigueur sur l'attitude, la façon dont on est à la table et surtout les comptes. Parce que les joueurs ne comptent pas, ils considèrent qu'ils se fient à toi.
Ok.
Donc, tu es un peu la police et le référent.
Uh-huh. Et donc, le calcul mental, c'est ton truc quand même?
J'ai une formation d'histoire à l'époque, à la base, donc non, ce n'était pas vraiment mon truc. Mais après, c'est des mécaniques qui viennent, puisque c'est souvent les mêmes calculs qui reviennent. Alors, en Texas Hold'em, on ne compte pas, mais il y a des variantes de poker où on va épargner les détails barbants et
rébarbatifs. Si on a des passionnés, certainement des passionnés de poker qui nous écoutent,
ils veulent savoir. Il y a trois techniques dans le poker qui se jouent, donc, comme on disait, le Texas Hold'em, no limit. Donc là, il n'y a pas besoin de compter. On peut mettre tout ce qu'on a devant nous. Tu as 6 000 euros de jetons devant toi. Tu peux tout mettre en un coup. Mais il y a des variantes qui s'appellent limite ou pote limite. Et là, il y a des façons de relance qui dépendent de combien il y a au milieu. Donc, on va prendre un pote limite. On va dire qu'il y a 600 au milieu, donc euros. Mm-hmm. Tu ne pourras miser jamais plus que 600.
D'accord.
Mais si tu mises 600 et que je te suis avec mes 600, quand on les remet au milieu, il y a donc 1800.
D'accord.
Et le coup d'après, tu ne pourras jamais miser plus que 1800. Ça limite la valeur de la relance.
D'accord.
Ou de la mise.
OK.
Et donc là, le joueur, en général, il ne se casse pas la tête. Il regarde le croupier et il dit pote. Mmh. Et quand il dit pote, le croupier a littéralement 3 secondes avant de se faire pourrir par la table entière. S'il ne fait pas le bon compte, forcément, il y a toujours une lumière à la table qui dira que le croupier a faux.
D'accord.
Donc, il faut savoir compter. Donc, il y a beaucoup d'examens pendant ce mois d'école de calcul mental. Mmh.
Donc,
il y a des techniques.
Si je te dis 274 multiplié par 612...
Je n'y arriverai pas.
Comment ça ?
Non.
C'est pas...
Parce qu'en fait, c'est des techniques, c'est les tables, on va dire, c'est des 5-10, les blindes. Pour ceux qui connaissent, il y a une... On va dire, il y a comme une taxe à payer par 2 joueurs à la table, la petite blinde et la grosse blinde. Uh-huh. Et en fait, si c'est 5-10 les blindes, il faut connaître la table de multiplication de 10. Ou la table de 5, ou de 20, ou de 30. Des tables assez rondes. Si c'est 4-8 les blindes, ça va être la table de 8. Mais après, il y a un processus d'increasement, comment on dit, d'augmentation okay. de la mise, qui fait que c'est des mathématiques qui sont assez logiques. Et si je ne suis pas une table de poker, je sais, j'ai des problèmes peut-être avec les chiffres dans la vie normale. Mais à la table de poker, je suis peut-être comme Rainman. Il ne faut pas faire tomber la boîte d'allumettes, je la compte de suite.
D'accord. Donc, une formation d'un mois, ça ne paraît pas long, non ?
Non, ça ne paraît pas long. Pour la petite histoire, moi, ma première relève en table, donc où je me suis assise, je pleurais déjà parce que je ne comprenais strictement rien.
Ah bon ?
Et j'ai un joueur qui m'a dit... tu pars de tellement loin que tu ne pourras que progresser.
Ah bah oui, ça
c'était assez sympa. Ouais, j'ai pleuré
cool
pendant 30 minutes parce que les joueurs aiment qu'une partie aille vite, parce que plus ça va vite, plus il y a des coups, etc. Quand ils m'ont vu arriver, je tremblais, je devais sûrement transpirer. Et je me suis arrivée à la table. Alors déjà, tu pitches pas, tu envoies pas les cartes de la plus jolie façon qui... C'est extrêmement stressant. Ils sont neufs, ils jouent depuis toute leur vie. Toi, t'arrives, t'as l'impression de passer l'examen de ta vie. Et ils disent « Oh non, un nouveau croupier !» Et ça les saoule et il n'y a aucune indulgence. Mais après, on progresse. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Et il y a aussi la manipulation des cartes qui est importante ?
Oui, et des jetons.
D'accord.
Par exemple, quelqu'un qui va pousser une pile, donc on dit un stack, même en français. Il y a beaucoup de mots anglais utilisés. Mmh. Quelqu'un qui va pousser sans rien dire un stack de jetons, il n'est pas obligé d'annoncer. Le croupier va devoir tabler les jetons de façon à ce que c'est un jeu visuel. De façon à ce que visuellement, même le joueur le plus loin voit combien c'est. Donc on stack les jetons par 5. Donc il y aura par exemple 4 piles de 5, ça fera 20. Si c'est des jetons de 1, on va mm-hmm. partir de là. Plus 2 jetons qu'on étale un petit peu différemment sur la table.
Okay.
Mais chaque pile en général, les joueurs assez pros... Et les joueurs qui ne sont pas très tricky, qui n'ont pas trop le vice, stackent leur tapis devant eux de façon à ce que n'importe quel joueur, visuellement, sache combien il y a. Il les stack par pile de 20. Mmh. Donc, quand c'est des jetons de 1, ça fait 20, etc.
OK. La manipulation des cartes, comment ça s'apprend ? C'est de la pratique ?
C'est de la pratique. Ouais. Pendant l'école, au départ, tu ne sais pas mélanger. Ouais. Il y a un protocole de mélange. Alors maintenant, moins... Moi, j'ai commencé, il n'y avait pas de mélangeuse.
D'accord.
Maintenant
qu'il y a des... Dans cette petite machine, tu mets les cartes dans une petite machine.
Voilà, pendant ce temps, tu donnes sur un deuxième paquet.
OK.
Et quand c'est fini, tu ramasses les cartes, tu ouvres la machine, tu prends le paquet qui a été mélangé. La seule action du croupier, à ce moment-là, c'est de couper.
D'accord.
Bien sûr, il y a encore des joueurs qui perdent et qui arrivent à dire « Ouais, il a encore coupé comme un noireau !» Parce qu'on est des gros noireaux quand le joueur perd. Oui, il y a beaucoup de vocabulaire assez rigolo. Mais... Auparavant, moi, quand j'ai fait la formation, on apprenait à faire ce qu'on appelait du shuffle hand. Ça se fait encore même dans les écoles, puisque en tournoi, il n'y a pas de machine sur les premiers jours des gros tournois, parce qu'il y a tellement de tables qu'il y a des tables provisoires. Mmh. Et pour que tout le monde joue le même nombre de coups, on ne va pas mettre des tables avec des machines et des tables sans.
D'accord, donc, parce que ça prend plus ou moins de temps.
Ça prend un peu plus de temps. D'accord. Mais pendant la formation, à l'époque, il fallait arriver à mélanger en moins de 7 secondes.
Ah oui.
Oui.
Ok.
On nous chronométrait.
Ok. Donc, pour ceux encore qui ne connaissent pas trop le poker, c'est des paquets de combien de cartes ?
52.
52
on
cartes.
On enlève les jokers.
Et la règle du jeu.
Et la règle du jeu aussi, oui.
D'accord. Et ça t'a tout de suite plu, cette école ? T'es tout de suite rentré dans le truc ?
J'ai trouvé ça au départ assez... c'était nouveau, donc c'est toujours intéressant, quelque chose de nouveau. J'ai eu des collègues de formation super sympas. Moi, j'arrivais à Paris depuis pas très longtemps, donc ça m'a permis de créer un réseau social. C'était une copine à moi qui était formatrice, donc c'était quand même très rigolo. Il y a beaucoup de jeunes, moi j'avais 30 ans à l'époque, et il y avait des croupiers, des futurs croupiers, la moyenne était entre 19 et 23 ans. Donc c'est un milieu assez jeune, même s'il y a beaucoup de vieux joueurs de Texas fermés, de poker fermés qui s'y sont mis. Il y a une différence de génération entre les joueurs aussi qui arrivent de online et les joueurs qui ont tout joué à l'époque dans les bars ou les bistrots, le poker 5 cartes fermé.
C'était payant cette école ?
C'était payant.
D'accord. Tu te rappelles
Oui, j'ai payé 1500 euros.
1500 euros ? Putain. Et tu sais pas si elle existe encore ?
Alors, moi, je connaissais donc les directeurs. En fait, à l'époque, le poker a explosé en France. Les casinos n'avaient pas droit au poker. Donc, il n'y avait du poker qu'à Paris.
D'accord.
Dans ces fameux cercles de jeu.
D'accord.
Et les cercles de jeu n'avaient... Non, c'est des lois 1907. En fait, ils n'avaient le droit de ne faire que des jeux qui n'étaient pas de hasard. Parce que le poker n'est pas un jeu de hasard,
d'accord.
Monsieur.
D'accord. On va y revenir. Jeu de chance.
Il y a une partie... Mais c'est basé sur de la technique.
D'accord.
Et des mathématiques.
Okay.
Et de la technique.
Y a un débat quand même parmi les joueurs, non ?
Non, il n'y a pas de débat.
Il n'y a pas de débat ?
Non,
c'est pas le débat.
C'est pas un secret. De même qu'au tennis, c'est toujours Nadal, Federer et Djokovic qu'on voit dans les grands chelems.
Okay.
Au poker, on verra toujours dans les grands tournois les mêmes joueurs arriver au bout. Après,
Donc ce qui fait dire que ce n'est pas de la chance.
Pas que. Après, il y a des mauvaises périodes où finalement, les 30% de chance deviennent ta destinée à chaque partie.
Ouais.
Mais en général, quand tu vois une nouvelle tête qui pop-up sur un tournoi de millionnaires, où il y a un prize pool, un montant à gagner énorme, là, par contre, c'est aux innocents les mains pleines.
Okay.
Parce qu'il n'a pas la même technique et il a perturbé les joueurs qui s'attendaient à ce qu'il ait ça plutôt que ça. Et... Mais cette école n'existe plus, je pense, puisqu'il n'y a quasiment plus de poker en France, enfin à Paris. C'est devenu, avec une loi, enfin des lois bien rébarbatives et bien politiques, tous les 8 cercles sur 10 sont fermés à Paris, ont été fermés par la police des jeux pour différentes et diverses raisons, plus ou moins obscures. Moi, j'ai vécu la fermeture des cercles, mais il n'y a pas eu de poker en France à Paris pendant... presque 8 ans, je crois, si je ne me trompe pas.
Pourquoi ça avait explosé à l'époque ?
Y a eu Bruel, je pense.
Ah, peut-être, le fameux.
Peut-être qu'il y a contribué.
Ok. T'en es pas sûr ?
Je pense qu'il a contribué pour tout ce qui est joueur amateur.
D'accord.
Ouais. Et puis, il y a eu les émissions télé. Par exemple, l'Aviation, qui est le plus vieux club de jeu de Paris, qui était, a une histoire super intéressante, mais on en passe, qui était au départ un cercle de jeu pour hommes.
Okay.
Dans l'entre-deux-guerres, c'était, on venait fumer le cigare, jouer au bagamon, au rami. Ils ont eu un jeu qui n'existe plus du tout, mais il y avait encore la table, c'était le chemin de fer, qui se jouait avec deux banquiers. Et deux croupiers avec des espèces de grandes palettes qui soulevaient les jetons. Les messieurs venaient chapeauter, enfin, cravate, la petite pochette. Et les dames restaient à l'entrée. Et il y avait le petit coursier qui allait leur faire leur shopping et tout ça, mais elles ne rentraient pas. Ça s'est démocratisé, mais c'est devenu un club de jeu et il y a eu cette aviation. Et un jour, grand monsieur du poker en France.
Ouais.
Et c'est à lui, je pense, qu'on doit le poker en France. C'est Bruno Fitoussi. Alors, on aime, on n'aime pas, c'est un grand personnage. Faisait beaucoup d'allers-retours avec le Bellagio à Vegas et s'est dit, tiens, je vais implanter le poker. Et il est allé donc démarcher l'Aviation Club de France, qui était un club qui appartenait à des Corses, pour introduire le poker. Il a introduit le poker et il a télévisé le poker avec le fameux World Poker Tour.
D'accord.
C'est pour ça que c'est devenu célèbre. Ouais. Bruel a donné l'envie de, d'y aller à des amateurs, mais les gens qui aimaient déjà jouer au rami, à la belote ou au poker fermé se sont mis à jouer au poker et avaient un lieu pour venir y jouer et être protégés de la triche ou du braquage ou de whatever, quels que soient les autres.
La triche.
La triche.
Ça triche au poker ? Là, on pense tout de suite à l'image du cow-boy dans le Far West qui sort un as de sa manche. Et d'un coup, y a les flingues sortent et tout le monde est mort.
Ben, ouais, c'est... Alors, ça ne va pas être de la triche comme ça.
Tu en as vu, non ?
Oui, mais ça ne va pas être de la triche comme ça.
D'accord.
Ça va plus être de la triche...
Des gens qui se mettent d'accord.
Qui se mettent d'accord de ce qu'on appellera de la collusion. Par exemple, on joue toute l'année à l'aviation ou dans n'importe quel autre club. Hein, pas besoin d'être à l'aviation pour parler du plus connu. On joue tout le temps ensemble et puis on voit un petit touriste arrivé de Nîmes, de n'importe où. Et on sait que lui, s'il part avec l'argent, il ne reviendra pas demain, puisque c'est un touriste.
D'accord.
Donc on va se dire, bah, tiens, nous deux, on ne se joue pas. Donc en fait, quelque part, on met notre argent en commun. Dès qu'il est dans le coup, quelque part, on se retrouve à deux contre lui. Donc c'est là que le croupier doit réaliser...
C'est de la triche,
que... Ah, ça, c'est interdit. La collusion est interdite au poker.
Ok. Pourtant, il y a beaucoup de...
Non, un joueur...
Tu viens beaucoup jouer entre amis, donc tu...
Oui, mais tu joues entre amis, il n'y a pas d'amis au poker.
Ouais, mais plus ou moins, tu dis, allez, s'il se passe un truc... Avant de t'asseoir,
Tu peux t'asseoir à la table et dire, ben, tous les deux, on ne se joue pas quand on est que tous les deux. Mais s'il y a d'autres joueurs dans le coup, on fait pas une coalition, on se ligue pas contre ce joueur.
Donc ça, c'est interdit. Et ça, tu peux le dire, tu peux le voir et tu peux le dire.
Alors ça, au bout de quelques coups... Un croupier passe en général 40 minutes à la table. Tu peux te dire, y a un truc qui est bizarre. Style, on est tous les deux contre quelqu'un. Je fais une mise. La personne est entre nous à un moment donné quand on est trois.
Bien sûr.
Je fais une mise. Il relance. Tu surrelances, même si t'as rien.
Okay.
On a peut-être un signe où on le sait, on se connaît.
Ouais.
Et moi, je colle, on le laisse venir, il rentre, ça fait grossir le montant du milieu, le montant du pot
du
qu'on
pot,
appelle. Et le coup d'après, ben, je bête, il va peut-être coller, et toi tu fais ton tapis, moi aussi, il se dit mon Dieu, je peux plus, deux contre moi. Il sait pas qu'on est tous les deux contre lui réellement, mais quelque part, il joue contre deux personnes. Et à la fin, ben, on calcule nos petits gains, et on se dit, bon, ben, allez, je te rends ton argent. Enfin voilà, ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas.
Non, ou parler au poker ne se fait pas.
Ok, bon, ça, c'est pas vraiment de la triche.
Ça peut en être.
Ok, donc parle-nous de la vraie triche.
De la vraie triche, de rajouter une carte.
Ça existe, ça ? C'est difficile quand même, non ?
Alors moi, j'ai dit une fois une partie très bizarre qui s'appelait du Chinese poker. Donc c'est du poker chinois. Il n'y a pas de flop au milieu. Le croupier ne sert quasiment à rien puisqu'on fait 4 paquets de 13 cartes et on donne le premier et le troisième à chacun des deux joueurs. Ça ne se joue qu'à deux. Donc chaque joueur a 13 cartes, il set up son jeu d'une certaine façon et il ouvre, il y a 3 cartes, 5 cartes, 5 cartes et c'est un système de croisage des tableaux qui fait qu'il gagne. Et ce jour-là, c'est très tôt, très tôt, très tôt le matin après des longues nuits à jouer et le joueur dit « Oh, j'ai fait tomber ma carte », il se baisse et il remonte et puis bon, il prend un coup énorme. Bon, c'est très bizarre et en fait, après coup... Je me dis, mince, je suis relevée, j'interromps pas la partie parce que tu sais pas si tu peux pas mettre de la suspicion comme ça. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait des caméras parce qu'il n'y a pas toujours eu des caméras dans les cercles puisque c'était assez mouvant comme législation. Et à ce moment-là, on regarde et en fait, il a fait tomber une carte et en la remontant, il a échangé.
Ah !
Voilà.
Le même deck, il avait la...
Ben, tu sais, les decks, après, quand t'es dans les... Il y avait ces fameuses 13 cartes aussi sur le côté, donc il garde un paquet sur le côté qui sert à rien. Bref, en tout cas, voilà, ça avait été une drôle d'histoire.
Waouh.
Mais bon, c'est...
Tu l'avais vu, mais tu l'avais pas...
Non, j'avais trouvé que c'était bizarre, mais j'ai pas vu, non. Non, non.
Et c'est après, avec les caméras, qu'ils ont pu
se
rendre compte.
Après, avec les caméras, ils ont vu qu'en se baissant... Après, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de faire ce genre de choses puisque les machines comptent les cartes.
Ok. Ah, aussi. Donc,
les machines te disent s'il y a une carte en plus ou une carte en moins.
D'accord. Donc, non seulement elles mélangent les cartes, mais elles les comptent aussi.
Elles les comptent. Ils te disent le deck est complet, le paquet de cartes, ou il manque une carte ou une extra carte.
D'accord.
Par contre, ils ne te disent pas s'il y a deux rois de pique ou deux as de
cœur. Oui, bien sûr.
Alors, oui, ça, ça c'est encore...
Ok. On est là où tu travailles et il y a ton mari qui attend dehors parce qu'il n'a pas les clés. Est-ce que tu veux qu'on se dirige vers la porte avec les clés pour lui ouvrir? Sinon, il va nous appeler Arthur.
Ouais. Ah oui, oui.
On va faire ça, non? Tu parlais aussi de la triche, mais y a, évidemment, quand il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent dans le poker, il y a beaucoup de cash. Donc c'est pas très clair des fois tout ça, non?
Ah, ça c'est très français. C'est le poker en France. Quelqu'un qui joue au poker va pas se dire oh je joue au poker. C'est sa femme peut ne pas aimer. C'est très associé les drogues, le jeu et la prostitution.
Ok.
Bon, c'est quand même trois milieux bien différents. On va quand même dire ce qui est. Moi, je vois plus de joueurs de poker boire du thé et de l'eau minérale toute la nuit que des Jack Daniel's, c'est des vodka toniques.
D'accord.
Mais il y a beaucoup d'argent et effectivement, c'est plus de la triche là. Mais il peut y avoir, donc il y a toute une législation auquel je pense c'est inutile de s'attarder, mais tu peux pas arriver avec 100 000 euros en cash dans un casino et dire bonjour, je voudrais jouer des jetons et on va pas te donner 100 000 euros comme ça.
Oui, c'est appel de la VC.
Le blanchiment d'argent a existé ou existe ou enfin après tu sais mais tu peux pas arriver comme ça. Par exemple ici à Vegas, si tu arrives avec plus de 2 fois 5 000 dollars en moins de 4 heures, on te demande de remplir un papier qui est transmis aux impôts.
D'accord.
Quand tu gagnes un gros tournoi, tu remplis un papier et c'est taxé à la base.
Bon, ça c'est la théorie.
Oui.
En pratique, c'est connu que ces cercles parisiens étaient là.
Ah, sujet glissant.
On parlait tout à l'heure des Corses. On va pas aller dans le détail parce qu'on va pas se faire assassiner demain et être enterré au fond du désert. Mais c'est connu.
Je suis pas d'accord.
Ah, attention.
Attention.
Ok. Pourquoi?
Donc, les cercles ont fermé parce qu'il y a eu un changement politique, on va dire.
T'es pas d'accord? Ça s'est passé quand même.
Non, il y avait des facilités.
Il y a eu du blanchiment d'argent.
Il y a eu des facilités.
Okay.
La raison, donc tout le monde le sait, c'est passé dans les journaux. Un des cercles parisiens, en l'occurrence, qu'on nommera pas, c'est pas la peine, a fermé pour une histoire de même mise.
Tu peux le nommer, j'y jouais moi.
Tu jouais où? À Wagram.
Ça y est, tu l'as nommé.
Tu y jouais pas. Mais c'est pas grave, c'était marqué. Il y a eu cette histoire comme quoi... un gang a eu, enfin, il y a eu une mainmise, un putsch, on va dire, deux. Mais la plupart des cercles de jeu, peut-être, avaient des facilités de paiement pour les joueurs. On était peut-être moins regardant, pas plus laxiste, mais moins regardant qu'un casino gouvernemental qui reverse peut-être 40% à l'État, qui appartient à l'État. Nous, on était des clubs de jeu. Chaque joueur payait une cotisation. Même si tu venais une fois dans l'année parce que tu passais à Paris pour jouer.
C'était la loi, tu étais obligé d'être membre
pour jouer. Tu payais cette cotisation, tout le monde l'a payé. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un revirement politique, un changement de gouvernement à une certaine époque. Et il s'est trouvé que l'État a trouvé quand même pas très cool que tous ces cercles, associations à but non lucratif, qui n'étaient pas censés faire de l'argent, ne versent pas une part plus grosse du gâteau au gouvernement.
Parce
qu'en fait, il
n'y
a que la cotisation qui revenait au gouvernement, les fameux 100 euros par joueur. Et oui, ça brassait de l'argent. Et ça a été ce problème d'obscurité, puisque chaque cercle disait qu'il versait alors aux pupilles de la nation, aux enfants des pompiers, whatever. Mais ça n'a jamais vraiment été très éclairci. Et donc... c'est glissant comme terrain.
Oui, c'est glissant. Mais
donc, le gouvernement a préféré fermer. Beaucoup de cercles comme l'aviation réclamaient depuis longtemps un statut de petite et moyenne entreprise et qu'ils n'ont jamais eu pour pouvoir se recadrer dans la loi. Le gouvernement, à l'époque, en 2000... moi, je travaillais à l'Haussmann, on a fermé en 2011. Et l'aviation a fermé en 2013. Et puis, entre-temps, beaucoup de cercles ont fermé. Il y avait un club qui était très peu connu. Beaucoup d'Asiatiques jouaient là. Ça s'appelait le Club Anglais. C'était à côté de l'Haussmann, en traversant la rue au-dessus d'un cinéma. A fermé aussi.
Moi, je jouais à Clichy, moi.
Ah, Clichy a été le dernier à fermer.
C'est vrai?
C'est marrant.
Ouais. Alors, pour la petite histoire, alors je dis ça parce que je sais que mon père écoute, il connaît bien l'histoire. Je jouais à Clichy, je ne sais même pas si c'est, je jouais à Clichy avec mes potes, et mon grand-père jouait à Clichy déjà. C'est un truc.
C'est vieux les cercles.
Ben oui, les cercles, c'est un truc de.
C'est vieux, c'est super vieux.
Et maintenant, ça n'existe plus.
Alors maintenant, donc, ils ont décidé de réouvrir en début d'année dernière.
D'accord.
Donc il y a une loi qui est passée, si je ne me trompe pas, c'est en 2010, où les jeux sont devenus le monopole de l'État.
D'accord.
Voilà, parce que l'État. Donc en fait, on a pu commencer à jouer en ligne très officiellement, bien taxé correctement.
Bien sûr.
À partir de 2010, c'était la loi de l'Argel. Régulation des jeux en ligne, quelque chose comme ça. Et donc
avec les gros du casino, le groupe arrière et tout.
Tout ça, en fait, aujourd'hui,
se sont engouffrés
dans le poker. Sauf que comme ils étaient régulés par l'État, chaque coup, au lieu de prendre 2 minutes, parce que c'est la moyenne d'un coup, c'est 2 minutes,
d'accord.
Prenait 4 minutes.
Okay.
Avec, pour la maison, parce qu'au poker, on ne joue pas contre la maison, en fait. On joue entre joueurs.
Mais.
C'est la différence avec les jeux de partie où tu joues contre le casino.
D'accord. Donc la roulette, le craps,
le blackjack, le stud, tous ces jeux-là, d'accord. Tu joues contre le casino. Tu ne peux pas gagner.
Non,
allô,
ça, on sait
tu ne peux pas gagner. Et le poker, tu peux gagner. Il y a des gens qui sont sur leur profession joueurs de poker. Ils en vivent. Et en fait. Avec cette régulation des jeux d'argent, etc., les joueurs ont commencé à être taxés très cher. Les casinos se sont engouffrés, mais nous, au poker, on comptait de tête. Les croupiers de cercle savaient compter de tête combien il y avait dans le pot, calculer le pourcentage qu'il fallait prendre pour la maison. Les croupiers de casino ne savaient pas faire ça, puisque ça ne se faisait pas. Donc, du coup, à chaque fin de coup, avant que toi, tu récupères ton argent, on tablait tous les jetons. On tablait tous les jetons, on disait bon alors il y a tant de pourcents, on calculait et on prenait. Mais ça, c'était pas capé, c'est-à-dire il n'y avait pas de maximum.
D'accord.
Okay. Tandis qu'en cercle, c'était capé. C'était pas cher de jouer en cercle.
Ouais.
Aujourd'hui, ils ont réouvert.
Ils sont devenus quoi ces cercles
Alors, ils ont fermé longtemps.
Ouais.
L'Haussmann ne deviendra malheureusement jamais rien ou jamais plus rien. C'était magnifique, c'était vraiment le club haussmannien. Avec les chandeliers, le truc super rococo, les statues grecques dans la montée. L'aviation avait été rénovée, c'était très très beau aussi, mais plus moderne.
C'est devenu quoi, des bars?
Alors l'aviation, c'est maintenant le club Barrière.
D'accord.
Barrière, okay. Champs-Élysées, puisque forcément, qui a pu se repayer des licences et avoir l'autorisation?
Mais ils les avaient déjà en plus, non?
Ils les avaient, mais ils n'avaient pas l'autorisation d'être à Paris.
D'accord, ok.
C'était interdit, il fallait être tout cercle de jeu. Et jeux de poker étaient à plus de 100 km de Paris, excepté Enghien, qui avait eu une dérogation parce que c'était une station thermale.
Pouvais avoir des casinos seulement sur les côtes, c'est
ouais.
ça D'accord.
Les côtes, les stations thermales de plus de X 1000 habitants, je ne pourrais plus dire le chiffre.
D'accord.
Et Paris avait le droit d'avoir ces fameux cercles privés qui appartenaient à des familles.
D'accord. Donc maintenant, ils sont réouverts.
Alors maintenant, ils ont réouvert début 2018. Donc. Des anciens ont pu remonter leur petit business avec d'autres personnes sur les papiers, sûrement. Je sais que Bruno, qui était à l'aviation, consultant, a aujourd'hui un club qui est le club Charal, avenue de Charal, ou de Charonne. Charonne, Chabronne, bref, on s'en fiche.
Charal, c'est pas la viande?
Non, mais je crois que c'est ça.
Ok.
C'est peut-être pas la viande, par contre, dans ces cas-là. Oh, c'est pas possible. C'est dur d'être loin. On en perd son français.
On va y venir.
Et donc, ces clubs ont réouvert. Ce sont des clubs sous la forme des clubs anglais de Paris, de Londres, je veux dire, avec une législation. Les croupiers. Le type, c'est le pourboire est très différent. En casino, on ne donne pas de pourboire. En cercle, on avait des pourboires.
Okay.
Aujourd'hui, c'est assez différent. Je ne connaîtrai pas vraiment les mesures. Je sais que c'est beaucoup moins intéressant d'y travailler.
Il y a aussi le jeu en ligne qui a explosé. Est-ce que ça a été en rapport avec la fermeture des cercles? Parce que les cercles, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouaient dans les cercles quand même.
Si, il y a beaucoup de gens qui jouent
mais
à Paris.
Comparé aux gens qui jouent en ligne, du coup, c'était vachement plus ouvert.
Alors, ça avait déjà explosé, puis il y a eu ce fameux Black Friday. Alors, bon, c'est...
Black Friday
dans le poker, je crois que c'était en 2013, quelque chose, ou 11, 2011 peut-être.
Okay.
En fait, il y a eu une histoire, les grands les hauts placés de Full Tilt, Party Poker et Poker Star ont été accusés de blanchiment d'argent.
Oh bah ça alors ?
Ouais. Et un vendredi, donc c'était le Black Friday, toutes les salles de poker ont shut down, se sont arrêtées, en ligne je parle.
Ouais.
Mais tous les joueurs ont paniqué parce qu'ils se sont demandé ce qui se passait. Il n'y avait plus de poker. Tout le monde s'est fait arrêter. Il y a des personnes qui ont pris. Je regardais... aux États-Unis, les peines sont cumulables. Mmh. Donc, ils avaient 30 ans pour blanchiment d'argent, 20 ans pour fraude fiscale, 5 ans. Enfin, ils face 55 ans de prison. Donc, j'ai pas suivi les tenants et les aboutissants. Mais suite à ça, on jouait plus sur PokerStar.com. On jouait sur PokerStar Angleterre, PokerStar France. Ça a contrarié beaucoup de gens parce que tu pouvais jouer qu'avec les gens de ta communauté. Donc, beaucoup de gens, comme on n'est pas taxé à Londres, se sont ouverts des comptes bancaires à Londres pour pouvoir jouer à Londres. Et plus être taxé en France puisque ça appartenait à l'État. Mais ça a beaucoup explosé. Et plus et moins il y a de jeux en live, plus il y a de jeux en ligne. Ou moins il y a de jeux en live, plus il y a de parties underground.
Tu joues ?
De temps en temps.
Bah,
De temps en temps.
Et tu préfères jouer en live ou en...
Je n'aime pas jouer en ligne. En ligne, ça m'énerve.
Okay.
Et puis, ça me coûte peut-être plus cher parce que de mettre un clic pour recharger la carte bancaire, c'est plus facile que de se lever et de se dire, bon, allez, je remets 500 euros ou 200 ou 100. Tu ne payes pas en carte bleue dans un casino.
Que du cash. D'où le blanchiment d'argent.
Non, c'est juste pour pas que tu... C'est juste pour pas que tu joues à crédit.
Et t'as une boîte d'avocats qui défendent tous ces gens-là que je puisse pas parler de blanchiment d'argent, quoi.
Non, mais il y a du blanchiment d'argent. Mais c'est pas pour ça que tu ne payes pas en...
D'accord. T'aimes tellement le jeu que tu veux absolument le défendre et...
Non, je le défends pas. C'est pas du tout ce que je suis en train de faire.
Donc tu disais que tu jouais. Est-ce que chaque croupier joue ?
Oh là, chaque croupier est un joueur...
Invétéré ?
Frustré au fond de lui. En fait, il est croupier parce qu'il est sûrement...
Pas joueur.
Réellement pas assez bon pour vivre de sa passion du jeu.
Ok.
Et donc, il est croupier par dépit, beaucoup.
D'accord. C'est vrai.
C'est-à-dire
c'est,
que
c'est
nous,
une réalité.
À l'aviation, tous les mois, quand on était payé, on avait la partie du mois.
Ok.
Où certains jouaient le mois qui venait de toucher.
Et les entre mois, vous.
Et, entre nous.
D'accord.
Et les mois suivants, parfois.
C'est dur le jeu quand même. Hein.
C'est dur le jeu. C'est dur parce que si tu ne sais pas t'arrêter quand tu as gagné, tu repères.
D'accord.
Mais quand tu perds, tu es persuadé que tu vas te refaire.
Bien sûr.
Donc tu mets ta petite cagoule et tu attends que la tempête elle passe. Et puis finalement, tu rentres broc, cassé en deux financièrement.
Et dans ce que tu es en train de m'expliquer, c'est toi ?
Alors non, ce n'est pas moi. Moi, j'aime bien jouer.
Ouais.
Mais bon, j'ai la conscience du fait que c'est dur de gagner de l'argent sûrement aussi. Et je prends plaisir à jouer. Et quand je joue un tournoi, je me dis, je pars avec l'esprit que ben moi, je ne me suis pas fait un bon resto à 200 balles. Je me suis fait une petite après-midi de poker. Je me suis régalée. Et je m'arrache la tête quand j'ai perdu. Je me dis, mais pourquoi j'ai joué comme ça ? J'ai joué comme une quiche, mais ce n'est pas grave. Je suis contente de moi.
Et pourtant, on pourrait penser que d'être croupier, c'est de voir toutes les mains que tu ne joues pas. Et ça peut vachement t'apprendre, finalement.
Oui,
parce que
c'est vrai.
Pour être bon au poker, il faut jouer le plus de mains possible. Mm-hmm. On est d'accord. Il faut avoir un spectrum de tout ce qui va se passer avec les cartes. Mm. Et toi, t'en vois plus que les autres, puisque tu joues pas ton argent en ce moment-là.
Ben alors, je suis peut-être trop distraite quand je travaille.
Non,
peut-être, mais non, tous les croupiers... Je vais te dire, tous les croupiers qui aiment jouer et qui auraient aimé en faire leur métier, s'ils étaient bons joueurs, ils seraient pas croupiers.
D'accord.
Ils seraient joueurs de poker.
Ok. Est-ce qu'on a des joueurs de poker qui sont devenus croupiers ?
Peut-être pas des connus, mais moi j'en vois beaucoup.
Ça doit exister.
Ou des croupiers qui disent « Oh, moi c'est bon, ça y est, je me lance dans le jeu. »
Et puis qui reviennent croupiers.
Au bout de 6 mois, ils se disent « Bon, je vais peut-être refaire un peu. » Mais il y en a beaucoup, en fait, qui gardent leur métier de croupier pour s'assurer le fait qu'ils ne vont pas se ruiner au jeu, mais qu'ils jouent beaucoup.
T'as vu des trucs de ouf
Ouais.
T'as vu des bagarres, t'as vu des... Qu'est-ce que t'as vu Qu'est-ce qui vient à l'esprit là ? La chose la plus folle que t'aies vue à une table de poker ?
La chose la plus...
On va parler de Vegas plus tard, mais on reste pour l'instant sur le côté France, quand tu travaillais là-bas.
La chose la plus impressionnante, C'est un joueur qui a fait une attaque cardiaque à la table. C'était une table, donc Texas Hold'em. Non, c'était une mixed game, donc ces fameux jeux où chaque joueur choisit le jeu qu'il va jouer parmi une variante de poker. Et le croupier, donc moi je suis à une table qui... les deux croupiers se regardent et je vois la scène parce que moi ma table elle est barbante, elle dort. Et donc je me distrais, c'est peut-être pour ça que je joue pas mal, je me distrais, pas bien, en regardant la table d'à côté. Et les joueurs ouvrent leurs cartes, donc ils ont 5 cartes ou 4 cartes dans la main. Et le croupier dit « Ah ben il a carré ». Et le joueur qui se lève sur la table, il tient la table, il dit « Mais moi j'ai full ». Et il se met à hurler. Et le croupier lui dit « Mais il a carré ». Et le joueur le regarde et lui dit « Mais petit con, t'étais dans les couilles de ton père que je jouais déjà au poker ». Il lui dit « Mais monsieur, il a carré ». Et là, le joueur, il est tombé dans les pommes. Tombé raide. On a appelé les pompiers, il a fait une attaque. C'était très rigolo. Enfin, rigolo, non. Impressionnant. Mais après, c'est des moments. Les joueurs flippent très vite. Ouais. Ils perdent beaucoup. C'est comme au volant. Okay. Ils insultent. C'est jamais eux quand ils ont perdu. C'est jamais leur faute. Ils jouent tellement bien, tous.
Tu travaillais à Paris et Las Vegas. Comment t'es arrivé à Las Vegas?
Quand tous les cercles ont fermé, moi, je fréquentais quelqu'un qui vivait déjà aux États-Unis, donc j'ai rejoint, puisque je l'ai rejoint. Même les cercles n'auraient pas fermé, je l'aurais sûrement rejoint.
L'amour.
Peut-être moins facilement, mais là, le fait de rien, de pas avoir d'attache, c'est toujours plus facile. Uh-huh. L'amour.
Eh oui.
Voilà, j'ai traversé les océans. J'espère qu'il m'entend. Et donc, je suis arrivée à San Francisco, en Californie. Où il n'y a pas de casino en Californie. Enfin,
À part dans les réserves indiennes,
ce sont des territoires natifs américains qui ont le droit des jeux, mais certaines villes autorisent les jeux. Ce sont des casinos, city casinos, donc des casinos de ville. Il n'y en a pas à San Francisco, il y en a à Los Angeles, le très grand commerce casino qui a plus de 200 tables de poker. Je crois que c'est sûrement l'un des plus grands, du moins aux US en tout cas. Et moi, j'ai travaillé à San José. Donc, c'est au sud, pas loin de la Silicon Valley. Et là, il y a deux casinos de ville. Le Matrix, qui a quelques tables, qui est très axé sur les jeux de Paris. Et le B101, où j'ai travaillé.
D'accord.
Donc là, c'était encore très différent, puisqu'on n'ouvre pas les flops de la même façon aux US qu'en France.
Okay.
Moi, je dealais à la française. On tournait les cartes. On pitchait pas, on n'envoyait pas les cartes de la même façon. Alors ici, ils adorent, mais en France, ils adorent comme on fait ici. On aime toujours ce qu'on n'a pas. Mm-hmm. Donc, ça a été assez impressionnant. C'était pas un casino, c'était un club de cartes, D'accord. Pareil. Pas de machine à sous.
Et tu as été embauché par ton expérience? Enfin, c'était facile de dire, écoutez, j'étais croupier en France, j'arrive et
alors,
boum, j'ai un boulot.
Je pense que j'ai été embauché plus facilement en France.
Ouais.
Parce que même en ne rien connaissant, j'avais été prise de ma formation. Ils viennent recruter pendant l'école. Là, j'avais postulé. Donc, il y a des entretiens. Il y a un check. On check de savoir si tu as fait criminalité. Mm-hmm. Enfin, il y a si tout un background. Parce que c'est toujours les jeux reliés à la police. Pareil en France, au ministère de la Défense. Ou de l'Intérieur, plutôt. Bref, donc, j'ai eu ce background qui est passé. Après, j'ai fait un test en table. Je n'ai pas vraiment été prise, apparemment, tu vois. On vous donnera une réponse dans 2 jours. Moi, une semaine après, je pleurais tous les soirs. Je ne serai jamais prise. Ils n'aiment pas les Français. Et j'ai rappelé en disant « Oui, je n'ai pas de réponse ». Et ils étaient deux à choisir. Et il y avait une fille et un gars. Et la fille avait bien accroché avec moi. Donc, elle a motivé son collègue de travail de me donner une chance de commencer. J'ai commencé là-bas.
D'accord.
Je suis restée 1 an et demi.
Et tu as refait une formation pour le poker?
Non.
Tu as tout de suite appris
comment faire. Ce qui m'a servi, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai 2 passeports pour le jeu. C'est l'aviation, parce que c'est mondialement connu, et par le World Poker Tour télévisé, et le Bellagio aujourd'hui.
D'accord. Donc, on avance rapide, Las Vegas.
Donc, on est parti de Californie avec mon petit copain qui était devenu mon mari entre-temps.
D'accord.
On est arrivé à Vegas. On cherchait à déménager. Moi, étant dans les jeux, Vegas, c'était plus l'appel plutôt que d'aller dans un état où le gambling n'est pas autorisé. Et donc, moi, j'avais dit, je ne bougerai à Vegas que si c'est le Bellagio, le Wynn ou l'Aria qui m'embauche.
Ah ouais, t'es comme ça, toi.
Bah, sinon, je voulais rester au B101 et j'aurais fait des allers-retours en avion. Enfin, je sais pas.
T'étais déjà venu à Vegas, de toute façon.
On était venu, oui, quelques fois, en petit week-end. Et donc, du coup, j'ai été embauchée au Bellagio et au Wynn.
Ah, d'accord. Donc les deux, tu peux faire
les deux. Ben, en fait, ici, c'est différent. Ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, dans la mesure où ce n'est pas dans la même compagnie. Donc, je n'aurais pas pu faire le Bellagio et l'Aria. Mais ça, c'est pour des histoires d'assurance, sécurité sociale. Ils t'autorisent à travailler dans la mesure où ils ne te donnent pas un plein temps. Et même si tu l'as, ils t'autorisent à travailler dans un autre casino.
D'accord. Donc... finalement, ton rêve est devenu réalité. Ou c'était pas un rêve, mais
c'était pas un rêve du tout, les États-Unis.
Mais c'est un objectif de dire,
mais par contre,
je veux travailler au
Vegas. Oui, j'avais pas envie d'aller et aucune critique pour les croupiers qui y sont aujourd'hui. Mais j'avais pas envie d'être au Golden Nuggets et d'avoir le cliché de comme dans c'est quoi ce film avec Steve McQueen de ce western.
Ah bon,
Kid City en noir et blanc où il y a la croupière qu'on appelle les mains d'argent qui a 100 ans et qui deal dans un bistrot troqué background.
Qui
j'avais
mauvais.
Pas envie de finir dans un truc pourri à 40 balais. Non, merci.
Donc,
je voulais un petit peu rêver, quoi.
Donc le Bellagio, donc pour ceux qui connaissent pas Las Vegas, c'est on dit que c'est le fameux hôtel Ocean Eleven, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Pour un peu remettre les choses en. Enfin, je le dis à chaque fois qu'on parle du Bellagio dans un podcast d'ailleurs.
Mais pour ceux qui connaissent le poker, c'est la poker room de Bobby Room.
Ah ben voilà. Enfin, explique.
Ben, la Bobby Room, c'est la fameuse salle mythique de poker du monde où les plus grosses parties de poker d'argent live et non pas de tournoi se jouent.
D'accord. Et t'as dealé là-bas, donc.
Ouais.
D'accord.
J'ai dealé des tables où les blinds, c'est 25 000, 50 000.
D'accord.
C'est-à-dire que si tu as de petites blindes et que tu décides que tu as 7 et 2 et que tu passes, tu as 25 000 qui partent au milieu à qui tu dis au revoir. Mais c'est des sommes tellement astronomiques qu'on ne réalise pas, quoi.
Et tout de suite, ça a dû être quelque chose quand même d'arriver de
quand
Paris, du
là,
cercle.
Et... tu te dis, bon ben là, si je meurs, c'est pas grave. Tu claques un peu des dents, mais c'est toujours les mêmes joueurs. Il y a Doyle Brunson, la plus belle. J'aurais tellement aimé faire une photo ce jour-là. Il y avait Jennifer Harman, Doyle Brunson, Negreanu, Phil Ivey. Gus Hansen, le fils de Dolly Brunson, tous ces gens-là sont là à la même table.
La table de, la table de malade, là.
J'ai cité pas tous les plus sympas, mais beaucoup.
D'accord. Et là t'es au cœur du poker. Tu veux dire, souvent, on dit que les États-Unis, bon, on va pour le supercross, le motocross, c'est là où ça se passe. Mais le poker, c'est ça aussi, c'est les États-Unis.
Ouais, je pense.
On parle pas de Shanghai, Dubaï ou machin. Le poker, ça reste.
Dubaï, non. Enfin, Macao, aujourd'hui,
Macao,
un petit
exemple.
Peu, mais pas tant que ça. Oui, bien sûr. Après, il y a un circuit de poker, on va dire. Les joueurs qui jouent pour les WSOP l'été à Vegas se retrouvent en août à Barcelone, se retrouvent au Monténégro à cette période-là, puis vont à Marrakech, puis il y a l'IPT en Italie. Il y a un circuit de poker.
D'accord.
C'est-à-dire que moi, je travaille à l'aviation. En mai, on avait le WPT. Le monde entier était au WPT. Le monde entier. Le monde du poker.
D'accord.
Et après, en mai, nous, on ne faisait plus rien à Paris en juin. Et moi qui suis ici aujourd'hui, je vois qu'en juin, c'est le moment où tout le monde est là. Il y a eu l'année dernière au WSOP plus de 183 pays qui ont été représentés dans les places payées.
D'accord.
C'est énorme.
C'est énorme.
C'est beaucoup.
Juste concrètement, pour que les gens... apprennent un peu de comment ça fonctionne. Quand tu dis que tu travailles au Bellagio et au Wynn, est-ce que tu es à plein temps? Est-ce que tu as des heures? Est-ce que tu es payé à l'heure? Comment ça fonctionne?
Alors, je ne suis pas à plein temps, parce que sinon je ferais trop d'heures.
D'accord.
Je vous rappelle que je suis française, je ne veux pas travailler 100 heures par semaine avec deux pleins temps à 40 heures. Par contre, ils m'embauchent toute l'année avec deux ou trois shifts, donc jours de travail ou nuit, ou whatever. Mais leurs conditions...
Des shifts qui durent combien de temps ?
8 heures.
8 heures.
Moins qu'en France.
D'accord.
C'est très organisé. C'est 4 tables d'une demi-heure, une demi-heure de pause, 4 tables d'une demi-heure, une demi-heure de pause. On ne casse pas des cailloux au bord de la route quand même. Hein.
D'accord.
On est assis. tu as des shifts. Donc au Bellagio, je fais des shifts qu'ils appellent des swing shifts. C'est des shifts de nuit, mais de soir, qui commencent en soirée. Et au Wynn, je fais des shifts de jour qui commencent le matin, fin de matinée.
D'accord.
Donc des fois, quand il y a la période des WSOP, ils m'imposent de faire un plein temps, les deux casinos.
D'accord.
Donc à ce moment-là, ben, je donne un peu et mon sang et ma vitalité et ma vie privée. Je travaille 90 heures par semaine.
Waouh.
Pendant 6 semaines. Mais après, si je leur dis « Oh, pendant 3 mois, je ne veux pas travailler », je ne travaille pas.
D'accord. Okay.
Mais en fait, ils me donnent des shifts toute l'année si j'assure la période de décembre, la période de mars qui est March Madness. Parce que tout joueur de poker ne joue pas qu'au poker.
D'accord.
Il fait tout ce qui est pari de jeu en ligne.
Ouais, c'est des,
basket,
c'est des joueurs,
le tiercé, etc. Okay. Donc Madness March ou March Madness, c'est le mois de mars où il y a beaucoup de sports, de collèges, d'université. Et tous les joueurs viennent à Vegas parce qu'on n'a pas le droit de faire de jeux de paris sportifs dans les autres états.
D'accord. Pour ceux qui sont passionnés de poker, il y en a forcément.
J'espère, sinon ils se seront ennuyés depuis. je sais, je suis désolée.
Non. Pour ces passionnés de poker, tu as cité des noms tout à l'heure. Il faut que tu me donnes des anecdotes. Des grands joueurs de poker, tu as eu des interactions. C'est l'enfoiré.
Je ne peux pas donner le nom de l'enfoiré, je peux donner le nom des plus gentils.
L'enfoiré, on le connaît tous. C'est Phil Hellmuth.
Ouais. Et ben, alors paradoxalement, moi je lui
Est super gentil.
Mais moi je le trouve. En fait, il a jamais été fumier avec moi.
Ok.
Donc on regarde toujours son petit nombril.
Ouais.
Je me suis fait, mais je te jure, des fois j'avais vraiment l'impression d'être un paillasson, quoi. Mais pas spécialement par des joueurs célèbres. Tu peux être un paillasson par le dernier des cons qui sait pas faire un plus deux, qui te pourrit. Mais des joueurs célèbres, puisque c'est ça qui t'intéresse. Phil Hellmuth peut être un gros con, mais moi j'ai une super expérience.
Okay.
Y a des choses obscures qui traînent par sa salle de poker room, apparemment qu'il aurait détourné de l'argent.
Il y a des trucs obscurs,
mais moi je parle de l'humain, on va dire. Je lui ai donné les cartes pendant 2 events très longs qui duraient 3 semaines. C'était un shooting star, donc il y avait sur chaque table du tournoi une célébrité avec un t-shirt avec sa photo et une étoile. Si quelqu'un le faisait sauter pendant le tournoi, il gagnait 5 000 euros, il faisait une photo avec, le joueur célèbre enlevait son t-shirt et lui donnait la médaille.
Wow, cool.
C'était super sympa, donc il y avait beaucoup de célébrités, dont Phil Hellmuth, qui était très rigolo parce qu'à chaque fois qu'il sautait, bah, c'était un peu... C'est un comédien aussi, tu vois.
Bien sûr.
Il jouait ce personnage un peu de râleur, mais c'est un vrai râleur. Je ne lui ai jamais donné les cartes en live game.
Ok.
Que du tournoi.
Que du tournoi.
Ce qui n'a pas la même pression. Parce que moi, je vois qu'en 30 minutes, sur la Bobby Room, récemment, on va dire, dans les derniers mois, sur 30 minutes, j'ai un joueur qui m'appelle French Fries, la frite, qui m'a dit « Je languis que tu te barres ». Parce que je viens de perdre 1,2 million en 30 minutes.
À cause de toi ?
C'est pas à cause de moi, mais il anguille qu'il y ait une nouvelle main qui donne
bien
les cartes.
Bien sûr, bien sûr.
Donc,
Ils sont très superstitieux avec ça quand même. Hein.
Pas tous.
Pas tous ?
Non, pas tous. Moi, je suis extrêmement noiraude avec Phil Ivey. Mais je crois que je lui ai poussé en 5 ans un pot. Un coup.
Ah.
C'est dommage parce qu'il est très généreux. Donc je suis pas noire qu'avec lui, je suis aussi noire avec moi-même. C'est ça qui est bon. Allez, pour la petite anecdote, je donne des cours de français à Gus Hansen.
Ouais.
Ça, c'est marrant.
Ouais.
Donc.
Toujours ?
Ben ouais, toujours sur Messenger. C'était rigolo parce que l'été dernier, il y a mon manager, il me dit ouais, il y a Gus qui demande quand t'es en pause d'aller le voir. Je dis quoi ? Bon, je lui dis tu sais, des fois, tu te dis il veut me. Tu as un peu l'ego, tu dis il veut me demander un rancard, pas du tout. Je dis j'y vais, au pire si c'est un rancard, je dirais non, je suis mariée et puis je m'en fiche quoi. Je vais pas aller me cacher dans ma salle de poker. Je vais, je dis oui, vous vouliez me voir. Il me dit oui, il me dit je voulais savoir ce que ça voulait dire ça parce que j'essaye de dater quelqu'un qui parle français et parce qu'il vit à Monaco mais il parle anglais et je sais pas trop. Et donc c'était des phrases très romantiques et va lui faire la nuance entre l'amour dans le lit et l'amour du cœur. Enfin, c'était très rigolo. Il me dit, ça t'embête si on s'échange nos messengers. Et donc, des fois, bon, bah, eux, les joueurs de poker ne dorment pas. Et moi, pendant les séries, pendant mes 90 heures, je dors 3 heures et j'ouvre mon messenger. J'ai 32 messages. Oui, alors quand il écoutait des chansons minables... Bon, désolé pour les fans de Lara Fabian, mais il écoutait du Lara Fabian pour apprendre le français. J'ai dit, écoute, on va faire un peu différemment, on va faire un peu NTM, M6 Solar, Brel, c'est un peu plus éclectique parce que Lara Fabian, tu vas apprendre que des poèmes. Mm-hmm. Mais c'est mignon, je trouve.
Tu parlais de Pau tout à l'heure et de joueurs qui gagnent gros. Quand ils gagnent gros, tu gagnes gros aussi ?
Non.
Pourquoi non ?
Alors, oui.
Tu peux ?
Je peux.
Tu peux, techniquement.
Je peux, mais alors... Tu gagnes avec le joueur professionnel, tu ne gagnes pas gros.
D'accord.
Parce qu'en fait, même s'il a pris un pot à 1 million de dollars,
il ne va pas donner 10 000.
Il te donnera. En fait, à la Bobby Room, en général, aux USA, ou même en France, enfin dans les cercles, chaque joueur qui gagne un pot te donne un jeton.
OK.
De 1, de 5, de 10. Ouais. C'est plus souvent 1. Mm-hmm. Ça peut être 2 ou 5. À la Bobby Room, quand il joue 2 000, 4 000 les blindes ou 10 000, 20 000 ou 25, 50, le plus petit jeton, il est de 1 000 dollars.
Ah.
Je donne deux minutes par coup. Mm-hmm. Je te laisse faire les mathématiques. Il suffirait que je travaille une demi-heure par semaine. Et même pas. En fait, non. Quand tu
Donc, ils n'ont pas de petits jetons pour toi.
Alors,
comment ça se passe à
ils ce peuvent moment-là avoir... Il y a les serveuses, ils donnent des petits jetons de 5 dollars quand elles passent. En fait, sur les petites tables, chaque pot est calculé par le croupier qui prend un jeton ou deux ou quelque chose pour la maison. Sur les très grosses tables, on ne fonctionne pas comme ça. Mmh. C'est, ils payent le siège à la demi-heure.
Okay.
Donc, c'est-à-dire que moi, je m'assieds, je donne les cartes gratuitement et le premier joueur qui prend le premier coup va payer ce qu'on appelle la collection. Même en France, ça se passait comme ça à Paris à l'époque, pour toute la table. C'est-à-dire, il y a 5 joueurs qui a 10 dollars de collection par joueur par demi-heure, le joueur sur le pot qu'il a gagné va me donner 50. Et là, il va me donner 25 dollars pour moi. Je clique 50 pour la maison et 25 pour moi.
Okay.
Je me suis levée avec des 600 dollars des fois, mais on va dire que 80% du temps, je me lève avec les 25 qui n'ont pas le choix de donner.
D'accord.
C'est mandatory, obligatoire.
Okay.
Après, la dernière fois, il y avait un gars qui jouait, je ne sais pas d'où il est sorti. C'est souvent les joueurs récréatifs qui jouent très cher qui tips.
Ouais.
Les joueurs pros qui ont perdu 3 millions la nuit d'avant, même s'ils gagnent 1 million, ils s'en foutent de me laisser un jeton. Et ils sont tellement concentrés, des fois, ils ne réalisent même pas que je suis là.
Wow. OK.
Alors, à l'accent, bien entendu. Ouais. Des fois, ils disent « c'est French fries », mais c'est tout. C'est vraiment, ils lèvent peut-être même pas la tête. Ouais. En France, c'est différent. Les joueurs te draguent un petit peu.
Ici, pas trop. Hein.
Non.
Non.
Bon, on te dit « oui, les croupières, elles font plus de sous que les croupiers
ouais. ».
Peut-être, ouais. Sûrement, oui. Parce que t'es mignonne, parce que tu souris. Quoique moi, le sourire, c'est pas ma tasse de thé. mais ce joueur qui arrivait de nulle part, qui devait être quand même très fortuné, a commencé à me lâcher à coup de chaque coup qu'il gagnait, et il gagnait chaque coup 25 dollars, puis
d'accord.
100, puis 50. Uh-huh. Et quand je me suis levée, il m'a rappelé, il m'a dit tiens, il m'a encore donné 100. Je me suis levée de ma relève, en 30 minutes, j'avais 600 plus les fameux 25.
D'accord.
Le lendemain, alors il demande un papier, le lendemain, pour me marquer son numéro, je lui dis non, c'est gentil, j'en ai pas besoin. Il me dit pourquoi, parce que c'est I'm all set, je suis déjà équipée. Et il était très bourré aussi, hein, faut dire ce qui est. Et le lendemain, il s'assied et me dit « Tu t'es pas battu avec ton mari, c'est sûr. T'es... » Et j'ai pas eu 600 ce soir.
On parlait de joueurs américains, mais t'as dealé avec des joueurs français, forcément, pour le WSOP.
Mmh. Même en France, oui.
Ouais, mais plutôt à Vegas, ça ressemble à quoi un joueur français par rapport à un joueur américain ? Est-ce qu'il y a une grosse différence ?
Le pro, peut-être pas.
Okay.
Ils sont tous... beaucoup de sport.
Okay.
En joueur français, moi, j'aime beaucoup Elky, qui est un vrai sportif, qui a eu une carrière assez... c'était un joueur de jeu... vidéo au départ.
D'accord.
Un joueur pro de jeu vidéo en Asie.
D'accord.
Qui finalement s'est mis au jeu en ligne et qui est arrivé en live sur le tard. Les joueurs en ligne sont capables, ont un mental assez impressionnant. Moi, je connais des joueurs en ligne qui peuvent jouer 15 parties en même temps.
Waouh.
Ils ont 4 écrans devant eux, séparés en 4 sous-écrans. Mmh. Ils jouent 4x4, 16 parties, et ils ne jouent pas du Texas Hold'em.
Wow.
Ils jouent des variantes différentes.
Wow.
Il y a des joueurs qui ont ce mental assez impressionnant. Mmh. Le joueur français va être, pour en revenir à la question, pro, sûrement pareil, une bonne mentalité. Il y a plein de petits joueurs jeunes, super sympas, qui arrivent sur le circuit. Il y en a eu moins les années passées, mais le jeu en ligne a quand même maintenu une certaine alimentation de nouveaux joueurs. Et il y a ce joueur connu, Yo Viral. Alors là, le nom, autant il me pop-up quand je le vois, je ne l'appelle pas Yo Viral, mais son pseudo, c'est Yo Viral. Et lui est très sympa, il commente, il fait plein de podcasts et de lives. Il y a cette émission super intéressante qui s'appelle Dans la tête d'un pro, sur des joueurs. On va aller voir Bruel et on va le filmer en train de jouer. Et après, il va commenter tout ce qu'il avait dans la tête au moment du jeu. Bruel est un joueur très intéressant. Alors, je ne parle pas de l'humain, qui doit l'être aussi. Mais...
Non, mais
mais c'est un... Je pense que professionnellement, que ce soit dans le cinéma, la musique, même si on n'aime pas sa musique, c'est pas le sujet, ou sa façon de gérer, il a quand même... il participe à la Poker Room en ligne Winamax. Il a d'ailleurs mis le maillot Winamax sur l'équipe de foot de Saint-Étienne. Il a fait double banco ce moment-là. C'est un joueur extrêmement intelligent et extrêmement fin au poker.
D'accord.
Moi, j'ai dealé des parties privées. C'est assez burlesque aussi, ça.
Donc, tu te fais embaucher pour ça?
Ouais.
Et
ben, quand les cercles ont fermé, j'ai dealé une partie privée assez impressionnante.
Okay.
Parce que là, par contre, il n'y a pas de backup. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas... Il n'y a pas de patron si tu te fais... Par contre, on te parle pas mal parce que c'est la personne qui reçoit chez elle, qui prend soin de toi. Mais c'était impressionnant. Il y avait un banquet, il y avait un buffet le nôtre.
Ah, bien.
C'était beau.
Donc, il faut que tu donnes des noms. Il y a qui était au...
Non, là, je ne peux pas donner
des
noms. Non,
non.
Il y a des gens connus, il y a des gens moins connus, il y a des gens connus pour des choses pas bien. Mais c'était des parties très impressionnantes. D'ailleurs, ils ne se payaient pas tous ce jour-là. C'était, il se payait plus tard les dettes. Mais sur cette partie, je me souviens, au début, ça commençait, ma petite, je veux recaver, donne-moi 50 000. Alors, puis après, c'est devenu Julie, puis c'est devenu croupier, puis c'est devenu donne-moi, mais très sec au fur et à mesure de. Moi, je savais plus quoi faire parce qu'il jouait à crédit à ce moment-là. Mais bon, tant que le manager, enfin, celui qui hoste la partie, dit rien. Mais c'est des parties. Ouais, impressionnante pour les sommes d'argent, puis ils se connaissent. Ah, moi, je veux plus que lui vienne dans la partie. Il me doit de l'argent d'une partie d'avant, d'il y a 10 ans. Et t'en as un qui dit, bah, si il vient, et je vous assure que je paye sa dette. Ce qui veut dire que si il vient, c'est que c'est lui le pigeon. Tu connais la belle phrase. Si tu sais pas qui c'est le fiche à la table, c'est sûrement que c'est toi.
on parlait de Vegas, bien sûr, et de tout ce que tu faisais, mais ça, c'était avant. Depuis le 17 mars, les casinos sont fermés à Las Vegas.
Ouais.
Est-ce que, alors, on a fait des podcasts avec Romain Cornu, vous avez écouté, etc., qui perd son boulot du jour au lendemain. C'est ton cas aussi, j'imagine ?
Alors, c'est mon cas. J'ai quand même la chance sur, comme on disait, j'ai deux casinos qui m'ont embauché. J'ai le Wynn qui continue à nous payer.
D'accord.
Le problème, c'est qu'on
donc
a...
Donc, t'es en chômage partiel ?
Je suis... licencié du Bellagio aujourd'hui.
D'accord.
Je pense que le poker va prendre énormément, va avoir énormément de peine à redémarrer.
D'accord.
Avec ce social distancing. Et puis c'est un jeu de socialisation. Les gens sociabilisent. Il y a des gens qui n'ont pas de vie. Il y a des geeks qui... Ça va être très dur de redémarrer. Le Wynn me paye encore. Alors, je ne gagne pas mon salaire du Wynn, puisque moi, j'ai une partie... En fait, ici, je suis déclarée 8 dollars de l'heure. Moins les taxes, je suis à pas loin de 3 euros de l'heure. Mais j'ai des pourboires qui me sont personnels, contrairement à Paris, où ils étaient mélangés.
D'accord.
Chaque pourboire, tous les soirs, je vais à la caisse récupérer mes jetons en cash. Et donc, je déclare une partie imposée, mandatory, obligatoire aux impôts. Que je les fasse ou pas, c'est déclaré. Je déclare X euros par heure travaillée. Si je fais plus, c'est bien. Si je fais moins, c'est tant pis pour moi. Sur la moyenne, je suis gagnante. Mais c'est sur ça que le Wynn se base aujourd'hui pour me payer.
D'accord.
Donc, je ne suis pas malheureuse. Je suis plus soucieuse de la réouverture. qui va être extrêmement difficile parce qu'il y a plusieurs théories, quatre par table. Pour ceux qui aiment jouer, autant te dire que ceux qui connaissent, personne ne sait, tout le monde sait très bien que personne ne jouera à quatre. C'est pas intéressant, c'est une technique différente. On joue des jeux différents à quatre que le Texas Hold'em. Jouer dans des bulles en verre, bonjour la sociabilisation. Et puis moi, j'aurais peur qu'un joueur qui s'énerve mette un coup de boule dans la vitre. Hein. Avant, j'avais peur pour ma tête, là, j'aurais peur pour la sienne. Non, je pense que ça va être dur. Donc là, on prévoit de réouvrir fin mai, mais ils ne prévoient pas le poker avant fin juin. Parce que ici, c'est régulé, donc pas par le ministère de l'Intérieur, mais par ce qu'on appelle le Gaming Board. Et le Gaming Board, aujourd'hui, impose 4 joueurs par table.
Donc ça, c'est fait.
C'est fait, donc il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de complaints des casinos, de plaintes. Parce qu'au blackjack, tu peux jouer 1/2, au poker, tu peux pas. Enfin, tu peux, mais personne ne jouera. Ouais. Quand les joueurs jouent
à 4... On a parlé de mettre des tables plus grandes. Il y a plein de possibilités, mais c'est toujours pareil.
Le poker, c'est ce qui rapporte le moins dans un casino, au mètre carré. Ils ont du poker pour être un 5-star, 5-étoiles casino. Ils ont 10 tables qui leur prend beaucoup de place. S'ils se retrouvent avec la même place et 5 tables, bah, ils diront, écoutez, on met 2 tables de poker et on va mettre des machines à sous, ouais. Que là, c'est toujours banco, parce qu'aux machines à sous, ils gagnent de l'argent. Les joueurs jouent contre quelque chose, ils ne peuvent que perdre.
Bien sûr. Donc, ce salaire que tu touches 80%, combien que tu...
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas.
Enfin, ce n'est pas que je ne veux pas le dire, hein, c'est que... Moi, j'ai des mois où je gagne beaucoup parce que je fais 90 heures et des mois où je gagne 1000 euros, 8 fois moins que ce que je gagne dans d'autres périodes de l'année. Aujourd'hui, vu que c'est arrivé dans une période creuse, je gagne sûrement pareil.
D'accord.
Mais en juin, je devais attaquer les fameux WSOP, World Series of Poker. Je ne travaille pas au WSOP, mais ça, parce que ça appartient au César, mais ça draine énormément de joueurs du monde entier qui jouent du cash game sur partout. Et donc là, par contre, si ça continue comme ça, en juin, je vais gagner 8 fois moins que ce que j'aurais gagné.
D'accord. T'es inquiète ?
Non.
Non ?
Non.
Pourquoi ? Parce que t'es optimiste de nature ?
Non.
Bah alors ?
Moi, je vois toujours tous les scénarios.
T'as plus de boulot ?
J'ai plus
Tu
de
sais
boulot.
Pas quand est-ce que ça va rouvrir ? Et tu me dis que t'es inquiète pour le poker en général.
Je suis inquiète pour le poker.
Toi, t'es pas inquiète personnellement ?
Je suis triste pour le poker.
D'accord.
Là, ça, c'est
parce que c'est un jeu
truc.
Que t'aimes profondément.
J'aime beaucoup voir comment les gens se comportent. Des fois, t'as le mec le plus con du monde, en fait, c'est une crème à la table, même quand il perd. Il est linéaire. Et t'as le mec qui est là, gentil, qui te fait « Oh, vous êtes violi, vous avez un joli sourire. » Il perd 3 euros, il monte en l'air, c'est devenu la dernière des connasses. Et j'adore ce genre de comportement d'idiot. Ouais. Observer les gens, comment ils arrivent à tricher, ou comment la seule fille à la table va arriver avec ses petits cils et 2-3 petites moues, Jessie, à faire ce genre de petits... Le gars, il va dire, oh, je sais que je gagne, mais je peux pas te laisser perdre. Mm-hmm. Et il passe sa main, des trucs de... Mais c'est tout ça qui va me manquer. Je suis pas quelqu'un de très sociable, mais j'adore ce côté où j'observe, parce que je suis pas obligée de prendre part au poker. Un croupier de poker est très invisible. Donc ça m'inquiète, ça me peine aussi. Après, le Bellagio, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Le Wynn, je suis assez optimiste qu'ils reprennent. Je pense qu'ils me reprendront au moyen de leur capacité. Hein. Ils ne font pas du social, ils font de l'argent. Et puis je me dis, si ce n'est pas ça, ça sera autre chose. Il y a des casinos qui ont des projets qui continuent aujourd'hui, comme le World Resort, qui est un casino qui appartient au Hilton et à une compagnie asiatique. Donc qui dit asiatique, c'est très cliché, mais c'est très vrai. Va énormément miser sur le jeu. J'ai un background, un curriculum vitae de folie. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas embauchée. Puis je suis française, ils aiment bien. Il n'y a pas à dire. Déjà parce que comme c'est du tourisme, je suis sûrement la seule à pouvoir leur traduire quand un Français qui parle mal anglais, je vous en supplie, n'apprenez pas l'anglais, continue, vient ici et il ne sait pas ce qu'on lui dit. Le nombre de fois où on me lève de la table, mon manager me dit, je peux dealer 2-3 mains, il y a un Français, il ne parle pas anglais. Et je vais lui expliquer.
D'accord.
C'est rigolo.
Est-ce que si tu avais un conseil, s'il y a quelqu'un qui veut devenir croupier, tu as un conseil à lui donner ?
S'il a une autre option, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Je pense que financièrement, c'est beaucoup moins intéressant qu'à l'époque des cercles, pour maintes raisons. Dont on ne s'est pas attardé, mais ça ne sert à rien. Ça peut être chouette si c'est pas par dépit, de, à défaut d'être joueur, je suis croupier, c'est triste. Mmh. Voilà. Et aux US, du moins, je pense pas que ce soit un métier. C'est un chouette métier, moi j'aime bien, mais je pense pas qu'il faut que ce soit une vocation au départ. Je pense que c'est plus intéressant d'être joueur, c'est plus grisant.
Ouais.
Après, il faut savoir être intelligent et c'est beaucoup de mathématiques. Les plus grands joueurs de poker, c'est des gens qui comptent, des banquiers, des joueurs d'échecs. Le poker, c'est prévoir. D'accord. C'est analyser et savoir faire des mathématiques.
Okay. Et on parlait en début de podcast, on parlait de chance. Donc, cette pourcentage 30. De chance, 30, c'est 30%.
Ouais. C'est allez, quand même, c'est... peut-être 35, peut-être 25.
C'est beaucoup 30. Quand même.
Ouais, mais pas tant que ça.
Ok.
Si tu es assez conscient de te dire que les... t'es pas chanceux en ce moment-là, il faut juste pas être superstitieux.
D'accord. Faut pas être superstitieux.
Non.
Pourtant, ils le sont plus ou moins.
Mmh,
non ?
Non.
Ils l'en sont, non ?
Pas tous. Pas les grands.
Pas les grands.
Negreanu, il est pas superstitieux.
Ok. Tiens, en parlant des grands, pour toi, c'est qui le plus grand ?
Celui qui revient de plus loin. Mmh. Le plus loin, je pense qu'aujourd'hui, ça sera Gus Hansen.
Ok.
Parce qu'il a eu vraiment des années très, 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 très noires et très, très broke. Il est revenu aujourd'hui sur le circuit. Il a recommencé à jouer dans les High Limit Roller Poker. Et celui qui va revenir de très loin, c'est Phil Ivey.
D'accord.
Parce que lui a été accusé à tort de tricherie.
Mmh.
Et c'est considéré par le casino comme de la tricherie. C'est le sorting edge. Et c'en est pas. C'est juste un talent. C'est du visuel. Il n'a rien touché. Il a gagné des millions au Borgata ou je ne sais où parce que les cartes n'étaient pas imprimées correctement.
Mmh.
Et il a fait augmenter sa chance de 0,3% au blackjack. Ou...
Mmh.
Et il a compté les cartes. Ou... C'est même pas il a compté les cartes. Mmh. Il a vu des cartes.
Il ne peut pas compter les cartes. Ça, c'est interdit.
C'est interdit.
Au blackjack.
Parce qu'on dit les jeux d'argent, mais c'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas que des jeux de hasard.
Mmh.
Mais le blackjack, cette histoire de sorting age, on pourra en revenir à Phil Ivey, aujourd'hui doit des millions. Donc il est très, très, très mal financièrement. Mais on ne l'a pas vu pendant un an ou deux sur le circuit. Et il est revenu l'année dernière, tout doucement. Moi, je ne le vois pas souvent encore beaucoup aux tables de poker. C'est quelqu'un qui est très éteint aux tables.
Mmh.
Ce n'est pas quelqu'un qui brille comme Negreanu ou qui est bruyant comme Helmut. Mais. Et puis il y a Doyle. Hein. C'est... Doyle, c'est pas la personne la plus gentille du monde. Hein.
Ok.
Non.
Non.
C'est un vieux aigri.
Bah oui, il y a.
C'est... Mais c'est mythique. Ouais. Quand t'as Doyle à la table, c'est des grands monsieur. Alors il n'y a pas de vous au poker, mais c'est le plus beau you que tu peux dire hein, quand tu lui parles. Hein. Et le plus doux.
Ma dernière question pour finir ce podcast, je la pose tout le temps à ceux qui, ben, qui sont extérieurs au monde du Supercross et du BigUSA.com. Qu'est-ce que tu connais au Supercross, toi ?
Ben, toi. Tu es mon héros.
Tu sais qu'il y a des joueurs de Supercross qui sont passionnés de poker.
C'est vrai ?
Ouais.
Ben, il faudrait qu'ils viennent se présenter la prochaine fois.
Est-ce que tu crois qu'il y a des joueurs de poker qui roulent en Supercross, en cross ?
Ben, si ceux de Supercross jouent au poker, forcément, les joueurs de poker jouent au fond du Supercross. Ça doit être les mêmes, non ?
J'imagine. En tout cas, merci beaucoup, Julie, d'avoir été l'invitée de ce
podcast. Merci, j'espère que ça n'aura pas trop barbé tout le monde.
Je pense qu'on a... J'ai pas vu le temps passer, encore une
c'est
fois.
C'est vrai, on a bien rigolé.
Et je pense que dans le poker, on pourrait parler encore des heures. Il y a des...
Ouais.
Il y a tellement de choses. Je dirais pas, c'est un peu... C'est presque l'école de la ville, le poker ? Ou c'est un peu poussé, quand même ?
C'est un peu poussé, mais ça peut être un petit résumé rapide, mais sympa.
Parce que tu vois tellement de tout. Enfin,
moi, ce que j'aime, c'est que tout le monde est mélangé, quelle que soit sa classe sociale, son âge et son origine.
Mm-hmm.
Quand tu es assis à une table de poker, tu es assis à la limite à laquelle tu peux jouer et tout le monde est au même niveau.
Mm-hmm. C'est vrai.
Il n'y a que l'intelligence qui fait la différence.
Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de...
Non.
Ça ne s'insulte pas. Ça s'insulte quand
ça
même.
Ça s'insulte.
Ouais, mais pas...
Mais ça fait partie du...
Ouais, ouais.
Ils n'ont pas le droit de dire fuck ici.
Ah oui.
Quand ils disent fuck, on leur donne le petit warning.
Tu pouvais ?
À Paris, ils faisaient ce qu'ils veulent. Ils pouvaient monter. Moi, j'en ai vu monter debout sur la table.
Debout
et c'était des petits, c'était un petit chinois. Je ne dis pas comment on l'appelait parce qu'il se reconnaîtra. Et un jour, il est monté debout. Je lui ai dit, on n'est pas assez assuré pour toi, pour les petites choses. C'était trop mignon.
Mais
c'est des fous.
Mais à Vegas, pas du tout.
Non, à Vegas, non, ils disent pas fuck. Il n'y a pas de discrimination. Ils n'ont pas le droit de me dire que je suis française. Ou... Après, tu laisses un peu passer selon la limite de la table à laquelle ils jouent.
D'accord.
Mais on va finir.
Voilà. Merci beaucoup, Julie, encore une fois.
Merci, Stéphane.
Je te souhaite bon courage et en espérant que les casinos ouvrent très bientôt. Avec 4 joueurs, 9 joueurs, ça, on ne sait pas, on verra.
On verra.
Mais bon, le poker va rester de toute façon. Ouais. S'il n'y a pas de WSOP, est-ce que ça va jouer?
À l'automne.
Ça va jouer en ligne? Comment ça va se faire?
Je ne sais pas.
C'est pas.
Moi, je connais quelqu'un de très influent dans le poker qui disait qu'à terme, le poker, ça serait des grosses parties de high roller, très limitées, et que ça deviendrait un jeu de société à la maison, comme le Monopoly.
D'accord.
Alors, on va voir.
Ok. Merci beaucoup Julie.
Je t'en prie.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. En ce qui concerne le Supercross, on en parlait un petit peu, pas trop de nouvelles pour l'instant. Ça devrait reprendre le 31 mai, on ne sait toujours pas où, mais bon, ça c'est une autre histoire. À bientôt, bonne semaine à tous et on se retrouve pour le prochain podcast la semaine prochaine. Ciao.